بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وزِد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons fini ensemble la bataille de Fath Mecca. Et on a dit que c'est une grande victoire pour l'islam et les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la sagesse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pardonné à tous les Mécois. « Idhabu fa antum at-tulaqa » Il leur a dit « Partez, vous êtes tous libres. » Et même les personnes qui ont fait le plus de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné qu'on les tue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a aussi pardonné. Et pendant toute cette bataille, 10 000 soldats musulmans, alhamdoulilah, il n'y a eu que 18 personnes et 2 musulmans. 2 musulmans qui ont été tués et 18 mécois. Donc, alhamdoulilah, c'était un fait sans... Il y avait quelques morts, mais par rapport à une grande bataille comme celle-ci, alhamdoulilah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à réduire le nombre de mort, alhamdoulilah, parce qu'il avait une stratégie, il ne voulait pas que les gens meurent, au contraire, il veut sauver les gens. Et cette victoire de Fethu Mekka a changé complètement. Maintenant, on a dit que les Arabes autour de la Mecque sont tous, toutes les tribus sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui donner acte d'allégeance et devenir musulman. Et même au-delà de la Mecque, les tribus entre Médine et la Mecque sont toutes devenues musulmanes. Ils ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois à la Mecque, et quand le prophète est parti pour revenir à Médine, les tribus sont venues le voir à Médine. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé par suite, surat al-Nasr. La dernière surat qui a été révélée, c'est surat al-Nasr. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. C'est des groupes et des groupes. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Et donc cette sourate a été révélée pour dire que maintenant il y a un grand changement qui va arriver, et alhamdulillah, les gens vont devenir musulmans. Et les gens se sont dit, la Mecque maintenant elle est entre les mains des musulmans, tous les Arabes donnaient et sanctifiaient la Mecque et la Kaaba, tous les Arabes venaient faire le Hajj. Maintenant la Mecque est devenue dans les mains de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans. Et souvenez-vous quand Abraha, le roi du Yémen, est venu pour détruire la Kaaba et pour empêcher les gens de faire le Hajj. Qu'est-ce que Allah a fait de lui et de son armée? Allah l'a anéanti. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Les gens, ça fait 50 ans, cet événement, il était encore dans les esprits des gens. Qu'aucune armée ne s'attaque à la Mecque sans qu'elle soit détruite. Normalement, l'armée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle doit avoir le même sort. Une armée qui attaque 10 000 hommes. Mais là, non. Et là, les gens ont compris que cette armée n'est pas comme les autres. Elle n'est pas venue pour détruire, elle n'est pas venue pour salir, elle n'est pas venue pour désacraliser. Au contraire, elle est venue pour rendre plus de sacralité à la Mecque. Et c'est pour ça que les gens sont devenus musulmans et ils ont compris que l'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on rentre dans une troisième phase. Maintenant, vous avez trois tribus, des grandes tribus, un peu éloignées, qui ont dit non, jamais. Jamais on devient musulman. Et au contraire, on va préparer une armée pour attaquer les musulmans. Donc vous avez Ratafan, donc fait quelques tribus, hein. Parmi ces tribus, Hawazin wa Thaqif. Hawazin wa Thaqif. Hawazin wa Thaqif, c'est des tribus qui habitent à Ta'if. À Ta'if, c'est une ville, hein, j'ai déjà raconté ça, une ville où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé, quand il a vu que les Mécois n'acceptaient pas l'islam, au bout de 10 ans, il a décidé de partir à Ta'if, lui-même, en personne, pour appeler les gens et dire, peut-être à Ta'if va m'accueillir, ils vont accepter l'islam. Et vous savez comment il a été accueilli, par des crachats, par des pierres, par des jets de pierres. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Et c'est dans cette ville-là qu'il y a eu cette résistance. Donc à Ta'if, c'est la Qabilat, la tribu de Hawazin et la tribu de Thaqif et la tribu de Nasr wa Sa'd ibn Bikr wa Bani Hilal min Qaysi Aylan. Et donc on a plusieurs tribus qui sont un peu éloignées et se sont dit, on ne va pas accepter l'islam, et même si le prophète a pris la Mecque, on résiste et on va constituer une armée. Et ils ont nommé un chef, c'est Malik ibn Auf. Ils ont nommé Malik ibn Auf comme chef de cette. Et Malik ibn Auf, il est de Thaqif, de cette tribu de Thaqif. Malik ibn Auf, c'était un homme un peu particulier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour faire la guerre contre les musulmans, Ils étaient à peu près 4000 soldats. Il faut sortir les femmes et les enfants. Je demande à tous les soldats d'amener leurs femmes et leurs enfants avec eux. Et sa stratégie, c'était quoi? C'était que si les gens font la guerre devant leurs femmes et leurs enfants, ça les incite plus à les protéger. Donc, s'ils laissent les femmes et les enfants, ils peuvent pas, ils sont pas aussi motivés que s'ils défendent leurs femmes et leurs enfants. Donc, il a décidé d'amener tout. Les chameaux, les moutons, les vaches, et leurs familles. C'était quelque chose de particulier, d'accord? C'est la première fois que... Et il rentre dans Wadi Hunayn. Donc ça, c'est Ghazwat Hunayn. On va parler de Ghazwat Hunayn. Ghazwat Hunayn, c'était entre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, et Hawazin wa Thaqif, ou plusieurs autres tribus. Donc, parmi les gens qui sont venus, il y avait un homme qui s'appelait Durayd ibn Summa. Ce Durayd, c'était un homme sage, très vieux. Il a dépassé son temps. Et il est quand même venu pour assister. Il était aveugle. Durayd ibn Summa, c'était un homme très courageux. Il avait beaucoup, beaucoup d'expérience dans la guerre. Les Arabes, à l'époque, c'était la guerre. La guerre et l'année prochaine, c'est la guerre. Donc la guerre et le Hajj. Il ne faisait que des deux choses. Donc, Durayd ibn Summa, il entend, il dit, on est où? بأي واد؟ قالوا بأوطاس. قال نعمة مجال الخير. Ah, c'est un... Il connaît tous les coins de l'Arabie. Il dit, ah, ça c'est un endroit où les chevaux peuvent courir. La hazana ou la sahm, c'est ni trop, c'est pas des montagnes très très difficiles. Ce n'est pas vraiment une terre plate, mais c'est un endroit où la guerre peut avoir lieu. Mali asma'u l'ura al-ba'ir. Pourquoi j'entends beaucoup de les cris d'enfants, idées? Wa nuhaq al-hamir, wa buka al-safi, wa thura al-shah. Pourquoi j'entends l'ura al-ba'ir, wa nuhaq al-hamir, wa thura al-shah? Regardez l'arabe, l'arabe c'est une langue magnifique. Al-Shah, les moutons, qu'est-ce qu'on dit? On dit Al-Thura. Là, on dit Ma'ama, c'est Al-Thura. Thura'a, Al-Shah. Al-Hamir, les ânes, on dit Al-Nahir. Nuhaqa, Al-Hamir. Ou Al-Ba'ir, les chameaux, on dit Rugha'a, Al-Ba'ir. Al-Rugha, ou Al-Nuhaq, ou Al-Thura. Trois termes pour exprimer le son qu'il entend. Et il y a Bouka al-Sabi, j'entends les pleurs des enfants. C'est quoi ça? On lui a dit, Malik ibn Auf, le chef jeune, il a dit, tout le monde vient. Il a dit, non, c'est pas possible. Donc, il a appelé, il a dit, demandez à Malik de venir me voir. Il lui dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, Aradtu an aj'ala khalfa kulli rajulin ahlahu wa malahu li uqatila anhum. J'ai voulu mettre derrière chaque homme sa femme et ses enfants pour qu'il les défende. Donc, il va s'acharner pour faire cette guerre-là. D'accord ? Faqala ra'i, ra'i dha'n wallah. Non, tu n'es pas expérimenté dans la guerre. Il dit, toi, tu es un berger de moutons, mais tu n'es pas un chef de guerre. Il dit, wa hal yaruddu al-munhazim shay'. Il dit, mais si quelqu'un a été battu pendant une bataille, tu crois qu'il va être retenu par sa femme et ses enfants et ses chameaux et ses moutons? Ben non, ça y est, s'il court, il va, il laisse tout, il part. Demande-moi, moi j'ai 100 ans d'expérience dans la guerre. Innaha in kanat laka lam yanfa'ka illa rajulun bi sayfihi wa ruhihi. Il dit, si la guerre est à toi et la bataille est à toi, il ne sera utile pour toi qu'un homme avec son épée et sa lance. Et si tu perds la guerre, tu vas la perdre. Ce n'est pas les femmes et les enfants qui vont retenir les combattants. Et donc, il était contre lui. Il lui a dit de ramener les femmes et les enfants. Mais l'autre, il a insisté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des espions. Eux, ils ont envoyé des espions et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des espions. Donc, ils ont vu, ces espions, ils ont dit, قَالُوا رَأَيْنَا رِجَالًا Les espions de Malik ibn Awf, قَالُوا رَأَيْنَا رِجَالًا بِيْغًا عَلَى خَيْلٍ بُلْقٍ وَاللَّهِ مَا تَمَسَكْنَا أَنْ أَصَابَنَا مَا تَرَى Donc, quand il a envoyé des gens pour voir, des espions, ben, ils ont vu des hommes blancs hein, sur des chevaux blancs. Et il a dit, quand on les a vus, on est venu en courant, ils avaient très peur. Ils sont arrivés vers leur chef apeurés. Ils ont dit, on a vu des... En réalité, c'était Al-Malaïk. Ils ont vu les anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé aussi ces espions et ils lui ont dit donc ils sont à tel endroit, ils sont 4000, à peu près 4000. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la Mecque. Maintenant regardez, le prophète et la Mecque sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pendant le mois de Ramadan et maintenant on est le 16 Shawwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 19 jours à la Mecque, 19 jours. Donc il est resté à la Mecque 19 jours pour régler les affaires, pour mettre l'ordre, pour nommer un responsable et tout. Et après, il sort avec... Quand il a entendu parler de cette armée, ben, comme je vous ai dit, le prophète ne laisse pas ce genre de choses. Il agit immédiatement pour résoudre les problèmes parce que s'il les laisse encore s'agrandir et peut-être même venir jusqu'à la Mecque, ça devient un autre problème. Donc le prophète a décidé d'aller chez eux. Il a 10 000 hommes, 10 000 soldats avec lui. Et en plus de ces 10 000 soldats, 2 000 Mécois, parmi eux des musulmans et des non-musulmans, ont décidé de venir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a accepté. Donc vous avez combien ? 12 000 soldats avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 12. Donc 2000 et ces 2000 personnes, on va voir que par la suite, c'est ces 2000 personnes qui ont commencé par fuir. Parce que c'est des gens qui n'ont pas la foi, n'ont pas encore été éduqués. Et donc 10 000, 12 000 en tout, mais 2000 qui sont des Mécois et qui viennent parmi eux, certains viennent de devenir musulmans et d'autres ils ne sont même pas encore musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Safwan ibn Umayyah. Safwan ibn Umayyah, je vous ai raconté son histoire. D'accord ? C'est celui qui, sa femme est partie le chercher et il est revenu. Il n'est pas encore devenu musulman pour l'instant. D'accord ? Mais là, il va devenir musulman. Par la suite. Après la bataille de. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi 2 mois de réflexion. Et le prophète lui a dit, je te donne 4. D'accord ? Réfléchis. Deviens musulman si tu veux. Et donc, Safwan ibn Umayyah était un homme très riche. Il avait du matériel de guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de lui prêter 200 dirhams, 200 boucliers. Et il lui a prêté. Donc ça, c'est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait aider par un homme musulman. Et quand les musulmans sont partis vers Hunayn, les gens, les 2000 personnes, ils sont passés, l'armée musulmane est passée par Dhati al-Wad. Donc c'est Sudda, donc c'est une construction, une grande construction, d'accord ? Et les Arabes venaient. Quand ils faisaient la guerre, quand ils passaient par cet endroit-là, imaginez comme une citadelle, comme ça, et ils mettaient leurs armes, ils accrochaient leurs armes, et aussi ils égorgeaient des moutons pour sacrifier, pour, c'était comme un acte d'idolâtrie devant cette, cette citadelle. Donc, ذاتي أنوار. Donc, ويذبحون عندها ويعكفون. Et rester 20 jours à cet endroit-là. Et les gens qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains lui ont dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu ne nous fais pas la même chose, nous aussi? Pourquoi on ne s'arrête pas ici et tu nous fais aussi la même chose et on reste et on égorge et on accroche nos armes sur cette tête et à moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Subhanallah, ce que vous avez dit, c'est ce que Banu Israël ont dit à Moussa alayhi salam. Hein? Vous vous souvenez, Banu Israël, اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بنو إسرائيل سبحان الله الله vient de les sauver de الله vient de les sauver de Pharaon الله a ouvert la mer devant eux ils sont passés dans la mer الأرض يبسا الله a fait que la terre c'est comme de la terre ferme ils passent ils voient derrière eux Pharaon se faire engloutir par l'eau ils passent et dès qu'ils passent il voit des gens adorer des statues. Et qu'est-ce qu'il demande à Moussa ? Il y a Moussa, « Ij'al lana alihatan, ij'al lana ilaha » hein?
C'était pas un veau ?
Non, c'était pas, le veau c'est après.
Oui, mais les personnes qui disent qu'il a pris l'exemple,
pour faire un veau...
Il a dit, nous aussi on va adorer comme les, comme, voilà,
comme les autres...
Et après, ils ont fait le veau quand il est parti, Allahu alam.
Ah oui, bah, peut-être... Et donc... ils ont dit, ils ont des idoles, ils peuvent se rapprocher d'Allah. Parce que l'idée, c'est que ces idoles soient un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme Allah n'était pas accessible directement. C'est ce que les Arabes disaient. Les Mécois, pourquoi il y avait des statues autour de la Kaaba? Ils croyaient en Allah, les Mécois. Ils croyaient en Allah, d'accord? Ils disent, Wallah, ils jurent par Allah. Mais ils disent, Allah est tellement occupé, est tellement loin, est tellement... qu'il n'est pas accessible. C'est ça la croyance. Et pour se rapprocher d'Allah, il nous faut des divinités sur terre pour se rapprocher d'Allah. Et donc regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, mais subhanallah, c'est vous avez fait comme Qawm ou Moussa qui ont demandé à Moussa de leur faire des... Donc, mais pourquoi? C'est pas Abu Bakr qui a demandé ça, c'est pas Omar. Hein? Loin de là. Loin de, c'est pas Uthman, c'est pas les gens qui avaient la foi. Mais c'est ces gens-là qui viennent de devenir musulmans et qui sont en cours d'apprentissage, on va dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a. Donc. Et qu'est-ce qui se passe, subhanallah? C'est que la première fois dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam où l'armée musulmane était beaucoup plus nombreuse que l'armée adversaire. Les musulmans sont 12 000. Et l'armée adversaire sont 4000. Vous avez trois fois plus. Trois fois plus. Et qu'est-ce que certains musulmans ont dit? Lan nuhzam al-yawma min qilla. Ah, aujourd'hui nous sommes nombreux. Et on ne sera pas vaincus parce que nous sommes nombreux. Comme si le fait d'être nombreux, c'est ça qui donne la victoire. Ils n'ont pas retenu la leçon de Badr, de Uhud. C'est pas ça qui a donné. Non. C'est la victoire ne vient pas par le nombre. Et ça, c'est une règle. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Et Allah nous dit ça dans Sourate Al-Baqara, quand il nous parle de Talut wa junoudi. Banu Israël demande à leur prophète, ils disent, donne-nous un roi pour combattre Jalut. Donne-nous un roi. Et Allah décide de donner la royauté à Talut. Talut, c'est un homme ordinaire. Il n'était pas riche, il n'était pas connu, c'était un homme ordinaire. Mais Allah lui a donné deux qualités. C'était un homme fort et un homme qui avait de la science et de la sagesse. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez un peuple qui demande à Allah de donner un roi pour faire la guerre. La majorité des gens, ils ont dit, on n'accepte pas Jalut. Talut comme roi. Pourquoi Talut? Et pourquoi? Il n'est pas riche, il n'est pas connu, il n'est pas d'une famille. On n'accepte pas que Talut soit le roi. Allah leur a dit, Talut, Allah lui a donné Allah zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah lui a donné des qualités. Et donc suivez-le, c'est lui le roi. Et il aura donné un signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tabout, un signe de la part d'Allah pour qu'il sache que c'est Talut, le roi qu'Allah a désigné, et non pas juste. Après Talut, il prend l'armée de Banu Israël, et il avance. Ceux qui ont voulu venir, parce que ceux qui ont dit on n'accepte pas Talut, ils ne sont même pas venus. Donc il y avait le premier tri a été fait carrément au début. Maintenant, Talut dit aux soldats qui sont avec lui, qui ne sont pas très nombreux, Inna Allah mubtalikum binahar. Allah va vous éprouver par une rivière. Vous allez passer par une rivière. Et vous n'avez pas le droit de boire, alors qu'ils étaient fatigués, ils avaient soif. Vous n'avez pas le droit de boire de cette rivière-là, de cette eau-là. Illa man ihtarafa ghalfatan bi yadihi. Vous avez le droit de prendre une petite gorgée avec la main, bi yadihi, une seule. Et c'est fini. Là, qu'est-ce que c'est ? La majorité ont bu. Et donc, ceux qui ont bu, leur a dit, restez ici, ne venez pas avec moi. Parce qu'ils voulaient, ils voulaient tester la foi, ils voulaient vraiment avoir avec lui que les gens. Ça, c'est dans le Coran al-Karim. Ils avancent. Ils avancent. Et là, la troisième épreuve, c'est que quand ils ont vu l'armée de Jalut, Ushqalou, قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. Beaucoup parmi eux, ils ont dit, c'est une grande armée, on ne peut rien faire, nous on est peu nombreux. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, plus que la moitié, de la moitié, de la moitié, ils sont revenus. Ils ont dit, non, on ne combat pas, cette armée-là, c'est... Et qui reste ? Ben, il ne reste que les gens qui avaient la foi. Parmi eux, Daoud. Parmi les gens, Daoud, alayhi salam. Et donc, et Allah dit, وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. Et après, il dit, وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوت. Talut, c'était un roi. Il dit, Allah lui a donné la royauté. Il a dit à tous ses soldats, qui étaient peu nombreux, celui qui tue Jalut, je lui donne ma fille. Il sera parmi... Il épousera ma fille, il sera le roi après moi. Et qui a Daoud, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, avec son lance-pierre, il a tué Jalut. Il a tué le roi. Et quand il a tué le roi des ennemis, ben, l'armée des ennemis s'est dispersée. Et là, l'armée de Talut a gagné. L'armée de Daoud a gagné. Et regardez comment. Cette petit à petit, il y avait un nettoyage, une purification petit à petit, jusqu'à que Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire à un nombre très petit de soldats contre une grande armée. C'est parce que c'était des gens qui étaient sincères et qui avaient le courage et qui sont venus pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, les musulmans ont dit, certains parmi eux ont dit, maintenant on est très nombreux, donc d'habitude on gagne les batailles, même si on est peu nombreux. Maintenant, on est nombreux, donc c'est dans la poche. Hein. C'est gagné. Mais non, c'était pas gagné. Et donc, l'armée musulmane arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'aube, à l'heure du Sahar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné les étendards, il a constitué les brigades sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans ont commencé à descendre dans Al-Wad, dans cette vallée de Hunayn. Ce qui s'est passé, c'est que Abdurrahman, Malik ibn Auf, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, il a dispersé plusieurs, des centaines de ses soldats dans la montagne, dans les montagnes qui étaient à côté. Il a dit à ces soldats-là, dès que l'armée musulmane arrive, mais commencez à tirer. Et c'est ce qui s'est passé. L'armée musulmane arrive, elle rentre dans la vallée, et ils savent pas d'où les autres ont commencé à tirer des flèches. Ils ont donc réussi, ils ont fait une embuscade pour l'armée musulmane. Et quand les musulmans ont vu que les flèches arrivent de tous les côtés, ils se sont dit, mais c'est une grande armée qui nous attaque. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont tous dispersés. Tous dispersés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tous partis en courant, trouver un endroit où s'abriter. Tout le monde. Il y en a qui sont carrément revenus vers la Mecque de l'armée musulmane. Vous imaginez, hein? Notamment ceux qui sont les Mécois, les 2000 Mécois. Mais même les autres, ils ont quitté l'endroit. Et donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu ça, il s'est écarté sur le côté droit. A vu que maintenant il fallait faire quelque chose. Donc il était sur sa mule. Et donc il disait, il a vu que les gens se dispersent et partent. Et donc là il fallait faire quelque chose, mais il s'est mis à l'écart, côté droit. Il dit aux gens, venez vers moi. Il voulait reconstruire l'armée musulmane et attaquer. Ana Muhammad ibn Abdullah. Et le fait de dire ça, Ana Muhammad ibn Abdullah, il se mettait en danger. Parce que les gens, sa parole va être entendue par ses compagnons et aussi par les ennemis. Et les ennemis, qu'est-ce qu'ils cherchent? À tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'y met en danger pour ramasser et regrouper les gens. Ana Muhammad ibn Abdullah. Et ce jour-là, on dit qu'il y a peu de personnes qui sont restées avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les muhajirines et parmi les gens de sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il monte sur sa barla, sur sa mule, et il dit, Ana al-Nabiyyu la kadib, Ana ibn Abdul Muttalib. Ana al-Nabiyyu la kadib, Ana ibn Abdul Muttalib. Il le crée à voix haute. Et Abu Sufyan ibn al-Harith, je vous ai parlé de Abu Sufyan ibn al-Harith. Je vous ai dit Abu Sufyan ibn al-Harb et Abu Sufyan ibn al-Harith. Abu Sufyan ibn al-Harith, c'était un poète. Et c'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant, il insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il est devenu musulman quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait de Médine vers la Mecque. Il est venu le voir avec son fils et il est devenu musulman. Maintenant, il était à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu quitter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est lui qui prenait la corde de la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abbas était juste là. Et pour empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller vite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Allahumma anzil nasrak. Ya Allah, je te demande de faire descendre ta victoire. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que les gens partaient, il a dit à l'Abbas, Ya Abbas, appelle. L'Abbas avait une voix qui porte. Il avait une très voix qui forte, très forte, qui porte loin. Et l'Abbas, il lui a dit, appelle. Voilà. أين أصحاب العقبة؟ il parle à ses compagnons en leur rappelant des événements. أين المهاجرين؟ Ceux qui ont immigré. أين المهاجرين؟ Donc, quand les muhajirines ont entendu la parole de l'Abbas et la voix de l'Abbas, ils sont revenus vers l'Abbas, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il parle Ya ma'shar al-ansar. Aïna hum l'ansar, les gens de Médine qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'Abbas, il parle à voix haute. Et là, les Médinois sont revenus. Après, il dit Aïna ashabu Badr, les gens qui ont participé à Badr. Les gens de Badr sont revenus. Il dit Aïna ashabu Bay'at al-Ridwan, les 1400 personnes qui étaient présentes à Bayat al-Ridwan. Aïna Ashab al-Ridwan. Et les 1400 personnes sont revenues. Et donc voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant est entouré par les soldats, les musulmans, les ceux qui ont été avec lui depuis le début. Et il y a eu une guerre très très farouche. Là maintenant, c'est armée contre armée. Au début, c'était juste des flèches et des archers. Maintenant, l'armée de Hawazin al-Zaqif arrive, les 4000, et l'armée musulmane, ils n'étaient pas maintenant, ils ne sont pas 12 000, ils sont un peu moins, parce qu'il y en a qui sont partis, mais c'est armée contre armée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une expression, il dit Al-ana hamiyya al-watis. Al-ana hamiyya al-watis. Et ça, c'était la première fois qu'on entend cette parole. Et jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un dit Al-ana hamiyya al-watis, c'est devenu un proverbe. Maintenant, on peut dire en français, les choses sérieuses peuvent commencer. D'accord ? Al-ana hamiyya al-watis. Si vous entendez cette expression, mais la première personne qui a dit cette expression, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Al-ana hamiyya al-watis. Quand la guerre a vraiment commencé et que c'est une armée contre une armée, donc le prophète a dit maintenant, les choses sérieuses peuvent commencer. Il l'a dit avec un proverbe qui devenait par la suite un proverbe. Al-ana hamiyya al-watis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il prend qabdatan min turab, une poignée de terre, et il jette sur les visages de l'armée adverse. Il dit shahat al-wujuh fama khalaqa Allah insana illa mala'a 'aynayhi turaban min tilka al-qabdah falam yazal hadduhum kalilan wa akluhum wa amruhum mudbira. Il dit les historiens, ils disent, ceux qui ont rapporté, de cette poignée de terre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté, ben chaque soldat de l'armée ennemie a reçu de la terre dans ses yeux. Et peut-être, Allah le dit dans le Coran al-Karim, concernant la bataille de Badr, et peut-être aussi concernant cette bataille-là, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Et ce n'est pas toi qui as jeté, quand tu as jeté, mais c'est Allah qui a jeté. On répète trois fois, mais cette répétition, elle est magnifique. Généralement, la répétition dans une phrase, c'est lourd, hein. Mais ici, avec trois répétitions, mais c'est magnifique. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ce n'est pas toi qui as jeté. Quand tu as jeté toi, mais ce n'est pas toi qui as jeté, c'est Allah qui a jeté. Et c'est parce que c'est Allah qui a jeté que chacun a reçu de la terre dans ses yeux. Alors, un être humain ne peut pas faire ça. Donc, c'est pour ça que c'est Allah qui a jeté, subhanahu wa ta'ala. Wa qala shahati al-wujuh, shahati al-wujuh. Malheur à ces visages-là. Et donc, quelques heures ont suffi pour que l'armée musulmane anéantisse. Alors qu'au début, ils ont perdu cette guerre-là. Au début, c'était une perte. Les musulmans se sont dispersés. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résisté, a gardé avec lui quelques compagnons et s'est montré. Il s'est mis en danger. Et Ali ibn Abi Talib disait, pendant la bataille de Hunayn, on était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'abritait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, cette guerre et cette bataille s'est finie en quelques heures et les musulmans, puisque ces gens-là ont amené leurs femmes, leurs enfants, leur bétail avec eux. Donc le gain pour les musulmans était énorme. Malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pardonné par la suite, le butin de guerre était énorme. Personne ne peut espérer un butin comme celui-là. Et c'est à cause de la bêtise de ce chef-là. Ce chef-là qui a amené tout le monde avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il commente. Il dit wa yawma hunayn, dans sourate At-Tawba. Wa yawma hunayn id a'jabatkum kathratukum. Le jour de Hunayn, quand votre nombre vous a satisfait. أعجبتكم فلم تغن عنكم من الله فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. Écoutez, فلم تغن عنكم شيئا. Le nombre n'était d'aucune utilité. C'est pas le nombre qui fait. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. La terre est devenue, s'est rétrécie alors qu'elle était large. Chacun, ils n'arrivent pas à trouver un endroit où s'abriter. Alors que وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم وليتم مدبرين. Alors vous avez donné le dos et vous êtes parti. Et ça, ça fait partie des grands péchés quand quelqu'un donne son dos pendant une bataille. Un musulman ne donne pas le dos pendant une bataille. Il reste devant, il combat jusqu'à la mort si c'est nécessaire. ثم أنزل الله سكينته. Puis Allah a fait descendre sakinata. Sakina, c'est quoi?
La quiétude.
La quiétude, la sérénité. La quiétude. Rabbi nazzal sakina ala rasulihi. Le prophète, c'est le premier qui ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Wa anzala junudan lam tarawha. Allez. Wa anzala junudan lam tarawha. Il a fait descendre des soldats que vous n'avez pas vu. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Allah a donc عَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Allah a puni les gens al-kuffar. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Et quand l'armée de Al-Taif, de Thaqif a perdu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Beaucoup parmi eux sont revenus jusqu'à Taif, jusqu'à chez eux. D'accord? Et c'est ça le conseil de d'Oreid ibn Summa. Vous vous souvenez d'Oreid ibn Summa, l'homme qui avait 100 ans, qui a donné. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit à Malik ibn Awf? Il lui a dit, quand quelqu'un perd la bataille, il laisse ses femmes et ses enfants. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Ils ont laissé leurs femmes, leurs enfants, leur bétail, ils sont revenus jusqu'à Taif, jusqu'à leur ville. Subhanallah. Parce que quand tu perds, c'est pas. Et donc, la majorité parmi eux sont revenus. Ou à Taif, certains sont revenus à Taif, d'autres à Nakhla et d'autres à Awtas. Les trois endroits qui ont constitué cette armée-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé. Il n'a pas laissé les choses parce qu'ils vont peut-être se regrouper encore et attaquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laisse pas les choses. Il fait les choses toujours jusqu'au bout, sallallahu alayhi wa sallam. Il envoie des soldats jusqu'à Awtas et à leur tête Abu Amr al-Ash'ari. Et il y a eu une guerre, une bataille entre les musulmans et ces gens-là dans la ville de Awtas. D'autres soldats musulmans sont partis pour jusqu'à Nakhla. Nakhla, c'est un endroit. Et subhanallah, c'est à ce moment-là qu'ils ont rencontré Doraïd ibn Summa. Doraïd ibn Summa, qui était quelqu'un qui était vieux, et il a été tué pendant cette bataille-là. Et la majorité des mouchriquins sont partis jusqu'à Taif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti lui-même avec des soldats musulmans jusqu'à Taif. Parmi donc le butin de guerre, il y avait 6 000 têtes de bétail. Et donc 6 000 moutons, l'ibil, parmi les chameaux, il y avait 24 000 chameaux, vous imaginez, hein? Donc, parmi les moutons, c'est 40 000, et ainsi de suite. Donc là, il cite, on a même les nombres de chaque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on regroupe tout ça, et on les a laissés.
Ça a l'air, pardon.
Il y a eu un incident entre le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et l'Ansar.
C'est la meilleure. On va la raconter, Inch'Allah. Tout à fait. Donc, parmi les captifs de guerre, Al-Shayma bint al-Harith al-Sa'diyya. Vous vous rappelez de Halim al-Sa'diyya? C'est qui Halim al-Sa'diyya?
Qui
allait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Halim al-Sa'diyya. Mais sa fille, elle s'appelle Shayma. C'est pour ça que le nom de Shayma, c'est un bon prénom pour nos filles. Elle était la sœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a vu, il ne l'a pas reconnu. Mais elle a dit, je suis Shayma. Et le prophète a reconnu une marque, il avait une marque, le prophète a reconnu sa sœur. C'est sa sœur de lait. Qu'est-ce qu'il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il enlève sa tunique, il le met par terre, il lui dit assieds-toi, parole, c'était sa sœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné sa liberté. Et elle est devenue musulmane par la suite, Shayma.
Elle est très bonne avec le Coran.
Non, pardon.
À la fin de la bataille, le Khouk, Mrada'a, pas sa sœur, Khouk.
Oui.
Ce que j'ai entendu.
Oui.
Et là, il a demandé à qui il a remis le butin de lui remettre le butin pour lui redonner à son frère. Son frère de l'église.
Ah, c'est le frère du professeur, ouais, ça c'est le frère.
Parce qu'il n'avait pas une sœur. Il avait son frère de l'église.
D'accord. Mais Shayma, Shayma, elle est citée dans Shayma, elle est citée quand même comme la sœur du professeur, Allah Azzam. Peut-être dans cette histoire il y a deux versions. Donc, Ghazwatul Ta'if. Donc, maintenant il y a une deuxième bataille qui est en réalité la même bataille que Hunayn. Maintenant, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'armée musulmane, maintenant il va jusqu'à Ta'if. Jusqu'à la ville. D'accord? Parce que Malik ibn Auf, celui qui était le chef, maintenant il s'est abrité dans la ville de Taif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de ne pas laisser. Et il est parti jusqu'à Khalid ibn al-Walid. Il avait 1000 hommes avec lui. Et ils sont partis devancer, ils ont devancé l'armée musulmane. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le chemin. Et donc ils ont assiégé la ville pendant quelques jours. Donc Anas dit que les musulmans ont assiégé cette ville 40 jours. D'accord? Mais il y a une divergence. Il y a certains historiens qui disent que c'est plutôt 18 jours ou 20 jours et non pas 40. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première fois qu'il utilise Al-Manjani, les catapultes. Parce qu'il y avait des. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam de qui il a utilisé,
hein? Ibrahim alayhi wa sallam, c'était la première catapulte.
Ibrahim alayhi wa sallam était
jeté dans le feu.
Barakallahu fik. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand je vous ai parlé de la bataille de Khaybar, je vous ai dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis Khaybar, qu'est-ce qu'il a trouvé à l'intérieur? Des catapultes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de construire. Maintenant, ça devient quelque chose que les musulmans ont adopté. C'était pas chez les musulmans, mais maintenant, c'est quelque chose qui peut aider et qui peut être une arme qui peut être utile. Pourquoi ne pas l'utiliser? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Al-hikmatu dhalatul mu'min, anna wajadaha fahuwa ahaqqun nasibiha. La sagesse est ce que le musulman cherche. Là où il trouve la sagesse, ben, ça lui appartient. D'accord? Quelle que soit la sagesse, que ce soit une arme, que ce soit une idée, que ce soit un savoir, que ce soit un outil, le musulman, il peut dire, ah ça c'est les outils des kofars, je ne les utilise pas. Non, il n'y a pas d'outil de... L'outil c'est un outil. Et tu trouves, même si tu trouves quelque chose chez les non-musulmans, alors que c'est utile pour toi, et le prophète nous l'a montré, sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti à Khaybar, il a trouvé des catapultes, il est venu à Taif. Il a ordonné à ses compagnons de construire des catapultes aussi pour utiliser ça dans la guerre. Et ça, c'est la sagesse qu'il avait, sallallahu alayhi wa sallam. وقذف بها به القذائف حتى وقعت شدخة في جدار الحصن. Et donc les musulmans donc sont rentrés par dans cette citadelle et parce que ils ont réussi à détruire le mur. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع الأعناب. فسألت ثقيف أن يدعها الله لله وللرحيم فتركها. Ils ont commencé, certains soldats musulmans ont commencé à couper les arbres de raisin, des vignes. Et ils ont demandé aux musulmans d'arrêter et le prophète leur a dit d'arrêter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a appelé à ce moment-là les gens qui étaient à l'intérieur et leur a dit « Ayyama rajulin » نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. Celui qui sort, il est libre. Et donc, ils sont beaucoup parmi eux sont sortis. اعتقهم الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc, il leur a donné leur liberté. Le prophète صلى الله عليه وسلم a distribué ses le butin de guerre. Il avait énormément de butins de guerre, comme on vient de le dire. Safwan, par exemple, Safwan ibn Umayyah, il lui a donné plus de 100 chamelles, une fois. Et après, il lui a donné 100 chamelles. Et après, il lui a donné 100 chamelles, trois fois. À Safwan ibn Umayyah, il a donné 300 chamelles. Alors que Safwan n'était pas encore musulman. D'accord ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait à gagner leur cœur à l'islam. Il y a des gens, et que Safwan il le dit lui-même, il dit « Muhammad était la personne que je détestais le plus ». Il a perdu son père pendant la bataille de Badr, d'accord. Et il dit « Muhammad, il m'a encore donné, jusqu'à qu'il devienne la personne que j'aime le plus ». Il y en a qui, l'argent pour eux, c'est le langage. Tu lui donnes, il t'aime. Tu lui donnes, il comprend ce langage de l'argent. Mais sa foi, Omeyyah, c'était son langage. C'était un grand commerçant, il comprend que le langage de l'argent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant de le détester, il lui a donné 100. Il reste un peu, et 100 encore. Il lui a donné 300 chamelles. Et maintenant, il dit, le prophète, je l'aime. Et après, subhanallah, après, il est devenu sincère dans sa foi. Sa foi, il est devenu un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Abu Sufyan, le prophète lui a donné. Et donc ces gens-là qui avaient embrassé l'islam récemment, le prophète leur a donné. Vous savez, les 2000 personnes là, c'est eux à qui le prophète a donné le plus. Mais malheureusement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malheureusement ou heureusement, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Al-Ansar, les Médinois, ils sont très nombreux, pratiquement 2000 soldats. Le prophète ne leur a rien donné, absolument rien. Vous avez 24 000 chameaux, 40 000 moutons, c'est un butin énorme. Et le prophète ne leur a rien donné. Et là, il s'est passé quelque chose. Les Médinois, ils commencent à parler. Les Ansar, ils commencent à parler. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rien donné, nous, on a participé quand même. On était là, on est venu carrément de Médine, on est là avec le prophète. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rien donné? Et ça commence à circuler, et oui, mais c'est vrai, oui, pourquoi il nous a rien donné? Donc, et c'est arrivé à Sa'd ibn Ubad. Sa'd ibn Ubad, c'est le chef. Il a entendu cette parole, et lui aussi, il est compagnon, il est médinois, mais il n'a rien eu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ce bruit-là, que les Ansars sont un peu attristés parce que le prophète ne leur a rien donné, et il appelle Saad. Et à Saad, il lui a dit, Saad, viens me voir. Saad vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, qu'est-ce que j'entends? des informations comme ça, comme les Ansars ne sont pas contents. Il a dit à Rasulallah, oui, ils ont trouvé un peu dans leur cœur le fait que tu donnes à tout le monde et tu ne leur donnes rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et toi Yassad, comment tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Et il m'a dit, je suis un homme parmi mon peuple. Il a répondu diplomatiquement, hein, une réponse diplomatique. Il n'a pas dit je suis avec eux, il n'a pas dit je suis contre, il a dit je suis un homme de son peuple. Moi je suis un sahab, je suis parmi les Ansar. Donc, le prophète lui dit donc, ok, c'est bon. Regroupe-moi tous les Ansar. Et qu'aucun autre, aucune autre personne ne soit avec nous. Je veux que les Ansar. Que les Ansar, aucune autre personne. Ils se sont isolés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez comment le prophète résout les problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève. Il parle aux Ansar. Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Ibn Ishaq, donc dit, il commence sa parole. Il n'y a que les Ansar là devant lui. Les Ansar, c'est des gens morts. C'est eux qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tout donné. Allah dit dans le Coran, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Ceux qui donnent malgré leurs besoins. Ils ont besoin, mais ils donnent fi sabilillah. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. C'est des gens. يَا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ مَا مَقَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ. J'ai entendu quelque chose. Est-ce que c'est vrai ce que j'entends? Personne ne parle. C'est le prophète. Personne ne dit rien. Bien, machin, ça m'a parlez, je veux vous écouter. Aucune. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur parle. Il leur dit, regarde, subhanallah. Alam atikum dhullalan fahadakum Allahu bi. Je suis venu vers vous, vous étiez des égarés. Et Allah vous a guidé par moi. Première chose. وَعَانَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي. Vous étiez pauvre. Vous étiez. Vous êtes maintenant riche grâce à moi. وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ بِي. Vous étiez ennemi. Les Médinois, il y avait Khazraj et Aous. Et la guerre ne s'est jamais arrêtée. Jusqu'au coup là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. C'était des ennemis. Et chaque jour, il y avait des morts donc, des deux côtés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a rappelé, vous n'étiez pas ennemis et Allah vous a... Il a arrangé entre vous par moi. Wallahu wa rasuluhu amanu wa afdal. Oui, c'est vrai. Tout ce que tu viens de dire, c'est vrai, ya Rasulallah. Et nous sommes reconnaissants envers Allah et son prophète. Il dit, ya ma'ashara ansar. Regardez, là maintenant, il change de statut, sallallahu alayhi wa sallam. Il se met à leur place. Là, il aura rappelé les bienfaits d'Allah sur eux à travers le prophète, n'est-ce pas? Maintenant, il va se mettre ici. Là, c'est lui qui parle, et là, c'est eux qui parlent. Puisqu'ils ne veulent pas parler, il va parler à leur place. Ya mashallah ansar, ajibouni, répondez-moi. Je vous écoute, répondez. Et tout le monde se tait. Qala. Oui, c'est vrai, je n'ai rien à te dire. Par Allah, vous auriez pu parler et vous auriez dit la vérité. C'est deux minutes là. Ah, c'est, cette histoire, il faut que je la raconte. Vous auriez pu dire, tu es venu vers nous. Alors que tu étais poursuivi. Ton peuple n'a pas cru en toi. On t'a abrité chez nous. N'est-ce pas? Regardez, le prophète, il se met à leur place. C'est comme si eux qui parlent. Subhanallah, c'est la sagesse divine. Subhanallah, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a donné à son prophète. Il dit, وَمَخْدُولًا فَنَصَرْنَاكَ. Si tu es opprimé, ton peuple t'a laissé, ton peuple te cherchait. Et on t'a abrité, on t'a soutenu. وَتَرِيدًا فَأَوَيْنَاكَ. T'étais pauvre, on t'a donné. Oui, vous auriez pu dire ça. Ya ma'ashara ansar. Awajadtum. Il leur dit, regardez. Vous avez trouvé dans vos cœurs, pour quelque chose, pour quelque chose de ce bas monde, je leur ai donné quoi? Des chameaux et des chèvres. D'accord? Mais vous, ألا ترضون أن ترجعوا ومعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Vous, eux, ils vont revenir avec les moutons et les chèvres. Et vous, vous allez revenir avec le prophète صلى الله عليه وسلم, avec vous. Et là, aucun Médinois n'a cédé. Ils ont tous pleuré. Ils ont dit, Radine, si eux, ils reviennent parler avec les chèvres et les... Nous, on revient avec le prophète صلى الله عليه وسلم. Le prophète, il leur a dit, المحيا محياكم والممات مماتكم. Et là, tout le monde a pleuré. Parce qu'ils ont, la chance. Les gens, ils prennent l'argent, mais eux, ils prennent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est quelque chose. Regardez comment le problème, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, règle les problèmes. Comment il règle les problèmes? Il n'a pas laissé les choses, il leur a donné la parole. Ils n'ont pas voulu parler, il a parlé à leur place, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallam wa balik. Allez. Et c'est quelle belle histoire, on va finir avec cette histoire, la série de ces cours-là, jusqu'à l'année prochaine, inshallah. Peut-être on va vous donner inshallah, le programme petit à petit pour l'année prochaine, inshallah, à partir de septembre, pour les doros. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.